France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Deux fois, j'ai réussi à lire Le Petit Prince deux fois. Faut dire qu'il se lit vite, ce court texte à images de Saint-Exupéry paru il y a tout juste 80 ans en 1943. Une fois quand j'étais petite et une fois plus grande, en vrai c'était il y a 3 jours. Et pourtant, à chaque fois et à 30 ans d'écart, la même incompréhension. Qu'y a-t-il dans ce livre qui le rend aussi populaire, autant aimé? Qu'est-ce que j'ai loupé entre le « dessine-moi un mouton » et le « renard apprivoisé » Et pourquoi se pâmer devant une phrase aussi cliché que « l'essentiel est invisible pour les yeux » Alors aujourd'hui, j'aimerais comprendre pourquoi autant d'éloges pour Le Petit Prince qui reste quand même, en tout cas à mes yeux, assez gnangnan.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein ?
À ce moment-là, un mec arrive, un petit loubard aux cheveux blonds, et qui lui dit, comme dans les livres, s'il te plaît, dessine-moi un mouton, une femme à poil, ou un calibre, un cran d'arrêt, une mobilette. Tout ce que tu veux, mon pote, t'es libre, mais dessine-moi quelque chose de chouette. Dans le lointain, il se passe plus rien, du moins il semble. Alors d'un coup de clé à molette, bien placé entre les deux yeux, ta-ta-tin, Gérard Lambert éclate la tête du petit prince de mes deux. Faut pas gonfler Gérard Lambert quand il répare sa mobilette. C'est la morale de ma chanson, moi je la trouve chouette. Pas vous ? Ah bon ?
Bonjour Tiffaine Samoyo.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Et bonne année. Vous êtes essayiste, traductrice et critique littéraire, vous êtes directrice d'études à l'EHESS. Alors est-ce que vous faites partie des personnes qui adorent Le Petit Prince, qui ne l'aiment pas, ou peut-être juste qui s'interrogent devant le succès du Petit Prince ?
J'ai aimé Le Petit Prince, je ne sais pas si je l'aime encore, mais en tout cas ce que j'aime c'est sa popularité, son devenir mythique, toutes choses qui sont très intéressantes à réfléchir. C'est quand même le texte le plus traduit au monde, qui a d'ailleurs un rôle même dans le maintien et le maintien vivant de certaines petites langues en voie de disparition. Donc ça c'est quand même intéressant à noter, il est traduit dans près de 500 langues. Et puis c'est le texte le plus lu au monde après, dit-on, les livres religieux. Donc à chaque fois qu'on parle du succès du Petit Prince, on emploie cette formule, le livre le plus lu au monde après la Bible et le Coran. Et en réalité, il faut peut-être comprendre que si c'est le plus lu au monde, c'est que c'est aussi un texte un peu religieux. C'est un texte religieux pour des périodes moins religieuses, sans doute, avec une religion qui est un peu plus à la surface des choses, qui adopte un régime de petite transcendance, c'est-à-dire que c'est pas un dieu lointain, absent.
J'aime bien cette expression de petite transcendance.
Oui, il y a peut-être des grandes transcendances qui seraient une croyance dans un principe systématique global de création ou de maîtrise de l'humain, des conduites, de la condition de vivant, de mortel, et puis des propositions moins globales comme certaines religions d'ailleurs asiatiques. Et Le Petit Prince, c'est un texte qui est très bouddhique compatible, par exemple, hein, et ce qui explique, on pourra y revenir, son succès en Corée, au Japon, en Chine. Hein, c'est le livre sans doute le plus lu dans ces pays. Donc, pour moi, son succès et son devenir mythique vient d'une dimension religieuse du texte qui réfléchit à la question du visible et de l'invisible, à la question de la vie et de la mort, donc à des questions métaphysiques élémentaires et qui essaye d'apporter des réponses. Hein. Je pense que ça, c'est une des raisons du succès du livre.
Donc là, vous expliquez le succès du livre, mais comment expliquez-vous qu'en même temps, il puisse agacer ? C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui hérissent. Vous l'avez dit, il est compatible, il est bouddhique compatible. En fait, il est compatible avec tout. Donc, on est presque en mesure de se demander, il est compatible avec rien, en fait, avec tout et donc avec rien.
C'est sans doute une appréciation a posteriori, c'est-à-dire que, comme toujours, des choses qui ont énormément de succès, qui font partie, en quelque sorte, de l'air qu'on respire, d'une sorte de culture tellement élémentaire qu'on l'oublie, nous apparaissent comme démodées ou clichés ou gnangnans, parce qu'on les a trop vues, trop entendues, elles ont été trop exploitées. Bon, il faut voir le nombre de produits dérivés autour du Petit Prince. Mais il s'est usé, comme beaucoup de mythes peuvent s'user, pour certaines ou pour certains, mais sans s'user complètement, parce que je pense qu'il faut être sans doute assez cultivé et appartenir à une certaine époque pour rejeter le Petit Prince. Qu'on voit bien, même dans la chanson de Renaud qu'on vient d'entendre, il y a un côté provocateur à dézinguer ce mythe et à lui tirer dessus, de manière assez amusante d'ailleurs.
C'est pas forcément qu'une critique des élites. En fait, le Petit Prince aussi peut hérisser, pas forcément parce qu'on est éduqué, mais aussi parce qu'il y a un côté provoquant à dézinguer quelque chose sur lequel tout le monde s'accorde.
Oui, c'est important de dézinguer les choses sur lesquelles tout le monde s'accorde, bien entendu. Ça fait partie aussi de
ça contribue au mythe, d'ailleurs.
De la pensée, et ça peut contribuer au mythe. Mais il se trouve que ce mythe, comme tous les mythes d'ailleurs, fonctionne aussi toujours. Donc moi, je trouve plus intéressant de voir ce qui continue à fonctionner, parce que il n'est pas au départ un mythe, il le devient. Il n'est pas écrit comme un mythe. Un mythe, ça ne s'écrit pas par un individu. Un mythe, c'est produit par des cultures. Là, c'est un texte qui a été écrit par un auteur dans un certain contexte historique, un auteur qui est l'auteur d'une œuvre qui a beaucoup à voir aussi avec celle-là. C'est pas un texte qui est un apax dans l'œuvre de Saint-Exupéry. Ces autres textes sont porteurs de la même morale, de la même métaphysique, je dirais, liée aussi à sa profession d'aviateur. On pourra y revenir. Donc il est devenu un mythe avec le succès qu'il a rencontré, succès qui a, faut le rappeler, d'abord été aux États-Unis, puisque c'est un texte qui a été écrit et publié d'abord aux États-Unis, en français et en anglais simultanément.
Donc c'était en 1943.
C'était en 1943 et ensuite qui a été publié en France chez Gallimard en 1945 et qui là a rencontré aussi un succès foudroyant et a vite été traduit dans de très nombreuses langues dans le monde. Donc c'est un texte qui a voyagé dans un contexte de guerre mondiale où il fallait faire en 1945 avec la disparition, la mort, la question des engloutis et où je pense que le mythe proposé par le Petit Prince, la question de l'étoile restante, disons, apportait un réconfort immédiat, permettait aussi d'apprivoiser la question de la disparition et de la mort auprès d'un certain nombre d'enfants qui posaient ces questions.
Depuis tout à l'heure, Tiphaine Samoyon, on parle du terme de mythe. Est-ce qu'on parle du phénomène littéraire du Petit Prince comme de quelque chose de mythique ou est-ce qu'on parle du fond du texte qui aurait la valeur d'un mythe ?
Oui, c'est intéressant de distinguer entre les deux. Je pense que les deux sont vrais.
Ouais. Phénomène éditorial,
le phénomène. Alors ça, ce serait mythe au sens barthésien, c'est-à-dire au sens un peu culturel. Ouais. C'est-à-dire, c'est un mythe moderne au sens où tout le monde l'a lu, tout le monde le connaît. Il y a des phrases, par exemple, dessine-moi un mouton.
C'est une phrase, on a commencé par ça, c'est le plus mythique.
Voilà, on pourrait suivre les développements de dessine-moi un mouton dans toutes les cultures du monde. Il y a même des livres qui s'intitulent La philosophie du mouton. C'est devenu quelque chose, une sorte de phénomène culturel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces phrases-là qu'on peut suivre dans la culture, il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elles sont produites, elles sont produites en effet par les mythes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si vous voulez, ce genre de phrases qui ont donné lieu à 36 reprises, déplacements, réinterprétations. Il y en a pas tant que ça dans la culture. Donc on voit là comment un mythe culturel, social, historique rejoint la construction d'un mythe au sens poético-religieux du terme. Et qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? C'est un texte, une histoire, une parabole qui explique quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc c'est ça un mythe.
Et alors dans ce sens-là, le Petit Prince, quelle est l'histoire du Petit Prince ? Qu'est-ce qu'il explique et qu'on ne comprend pas ?
Alors c'est peut-être là qu'il est difficile de répondre. Moi ce que je pense, c'est d'une façon générale, il rejoint vraiment la question métaphysique de base, mais que tous les enfants se posent à un moment donné comme une forme de questionnement un peu vertigineux, mais que finalement on est amené à reprendre tout au long de son existence. C'est une question toute simple, c'est pourquoi est-ce qu'on vit et qu'on va mourir. Je dirais que la force du texte, alors tous les mythes répondent à cette question, toutes les religions répondent à cette question, essayent de donner des formes de consolation. Le texte du Petit Prince prend en sérieux cette question sans donner véritablement de consolation. Et je dirais que c'est ça qui est peut-être la force de ce texte, puisque certes il donne la possibilité que la vie soit dans la mort. Également, mais sans construction de royaume au-delà, sans promesse de vie éternelle. Enfin, la consolation est assez mince. Hein.
C'est petite quand même transcendance,
un texte,
vous disiez.
Petite transcendance. C'est quand même un texte qui est assez peu consolateur, qui est assez triste.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai que c'est pas sur la dimension enfantine. On va revenir en fait sur cette dimension-là, Tiphaine Samoyeu. Mais c'est vrai que c'est pas un texte heureux. Il y a pas de happy end. C'est un texte à la fois qui est rassurant et en même temps pas du tout consolateur.
Non, c'est ça. Et je dirais que là, c'est peut-être un mythe pour notre temps. C'est reprendre en charge une grande question qui a tout le temps été prise en charge par les mythes, mais sans lui donner une grande réponse consolatrice ou une grande réponse explicative. Et en maintenant la tristesse, d'ailleurs, dans l'histoire elle-même, hein, puisqu'il est question aussi de pays des larmes à un moment. Et puis, en maintenant une incertitude, tout en donnant une forme d'espérance vers la fin du texte. Donc, il y a, me semble-t-il, les données historiques d'un mythe moderne.
On va revenir, Tiphaine Samoyeu, je le disais, sur cette dimension enfantine, infantile, en tout cas naïve du texte. On va tout de suite écouter une archive d'enfants en 1983 qui réagissait à ce début devenu mythique. Vous l'avez dit, Tiphaine Samoyeu, dessine-moi un mouton.
Je vous rappelle donc la première phrase dite à Saint-Exupéry par le Petit Prince, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
T'as surpris qu'il demande ça en premier, quoi.
Bah oui, parce que dans le désert, normalement, quelqu'un, il a très peur, il a soif et tout ça, alors il pense plus à autre chose que d'avoir à boire ou à manger. Et puis là, le petit garçon, le petit prince, il demande « je voudrais un mouton ». Et dans le désert, c'est normalement, c'est curieux de voir un petit garçon demander un mouton. Et il exige vraiment ce mouton.
Demander « dessine-moi un mouton ».
Oui.
Hein? Parce que dans le fond...
Bien fait aussi.
Hein?
Pas malade, ni un bélier, enfin très beau.
Ouais.
Dessine-moi un mouton. Surprenant un peu.
Ouais, ouais. Hein? Ouais, parce que tu vois quelqu'un arriver dans le désert et l'air de rien, il pose « dessine-moi un mouton ».
C'est étrange, ça paraît étrange. Surtout quand on est complètement tout seul comme ça.
Je trouve ça drôle qu'il ait... Il est en danger de mort et tout ça, et puis il prend une feuille de papier, un stylo, et puis il se met à dessiner au lieu d'essayer de faire quelque chose pour repartir le plus vite possible.
C'était donc en 1983, des enfants quand même assez sceptiques sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'avoue que c'est aussi l'effet que ça m'a fait quand je l'ai lu petite, en me disant mais pourquoi en fait il répond à cet enfant. D'ailleurs, on pourra se demander si c'est vraiment un enfant, Le Petit Prince, Tiphaine Samoyeu, au lieu de réparer son avion. Est-ce que ce texte, il s'adresse véritablement aux enfants?
Il y a un élément de merveilleux, je suis assez surprise. Alors évidemment, c'est la question qui oriente la réponse des enfants dans le document sonore qu'on vient d'entendre. Mais on est
Vous
quand même pas étonnés.
Vous les trouvez trop pragmatiques?
En tout cas, ils sont spécialement pragmatiques, c'est-à-dire que on est enfant constamment entre des formes de réalisme et des formes de merveilleux, et on s'étonne pas outre mesure lorsqu'on lit des contes de ces aberrations au regard de la réalité. Donc il y a tout d'un coup ce surgissement d'un petit personnage qui en effet appartient à l'univers des contes, c'est-à-dire le petit prince, qui est un personnage archétypal de l'univers des contes, et qui rencontre. Et c'est peut-être ça qui est la difficulté pour ces enfants, ou peut-être pour certains, c'est qu'on a l'impression qu'on débarque dans un texte réaliste qui va raconter une histoire d'aventurier, un aviateur dans le désert, et on tombe dans une histoire justement qui inclut des éléments de merveilleux. Donc ça, alors que souvent on est soit dans le merveilleux, soit dans le réalisme, dans le roman d'aventure héroïque, et l'entrecroisement des deux, la rencontre entre les deux est aussi une particularité, donc il faut le temps de s'y faire. Et il me semble que cette phrase « dessine-moi un mouton » est devenue presque justement ce sésame qui lui appartient au mille et une nuits, mais d'entrer du merveilleux dans le réel, dans le réalisme, et pas dans un univers autonome. Et donc il y a cette rencontre assez incompatible de l'univers de l'aviateur, qui est celui des autres textes de Saint-Exupéry, c'est-à-dire de l'héroïsme des premiers temps de l'aviation et du développement de l'aviation également de guerre. Et puis le conte merveilleux, au départ assez typique, banal, disons, du petit prince avec sa petite planète, etc. Et dessine-moi un mouton, c'est comme ouvre-moi la porte de ton univers, en quelque sorte, ou entre dans le mien, mais il y a tout au long du texte, cette hésitation entre les deux, et qui est peut-être un problème pour le fonctionnement du texte auprès de certaines lectrices ou certains lecteurs, mais qui est aussi sans doute
l'ingrédient
de sa force. Ouais.
Qui fait que ça marche. Mmh. Est-ce qu'on peut se demander, Tiffany Samoyeux, si ce texte ne s'adresse pas d'abord à des adultes qui fantasment une certaine idée de l'enfance, qui devrait pouvoir s'étonner de tout, se satisfaire d'un mouton dans une boîte. Est-ce que finalement, c'est pas plus un texte de vieux nostalgique?
On voit que vous êtes très critique. Il y a cet aspect. Je pense que le succès du Petit Prince vient du fait qu'il est aussi beaucoup lu par des adultes. Mais la nostalgie de l'enfance, c'est pas forcément une nostalgie poisseuse ou négative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grandes choses qui se sont écrites ou ont été créées par un regret ou une nostalgie de l'enfance ou une manière de rester des enfants. Je pense que c'est pas à prendre en mauvaise part nécessairement. C'est un texte sur l'enfance qui construit ce pays de manière très nette et là encore assez mythologique, avec un nombre d'années, ça dure entre 6 et 7 ans, donc c'est ce chiffre magique que l'on retrouve dans tous les contes et qui précède donc l'âge dit de raison. Il y a une critique en fait du rationalisme, d'un certain capitaliste rationaliste hérité des Lumières qui apparaît dans le corps du texte, pas forcément dans les passages les plus connus, parce que très souvent on résume le Petit Prince à dessine-moi un mouton et au renard, mais entre le mouton et le renard,
il y a tout le texte. Il y a toutes les aventures du Petit Prince.
Il y a énormément de rencontres du Petit Prince avec un certain nombre de personnages qui reprennent des figures d'adultes qui sont presque toutes critiquées. À part l'allumeur de Réverbère, qui est à peu près sauvé par la narration et par le Petit Prince lui-même, parce que son utilité, c'est le beau. Hein, ça n'est plus une utilité pratique, mais l'utilité d'allumer la lumière, et qui est une utilité qui renvoie à l'esthétique et non plus à l'utilitarisme pragmatique, économique, politique, etc. Donc il y a toute cette partie du texte qui est assez intéressante et qui, alors maintenant ce sont devenus des clichés parce que c'est tellement connu, mais enfin qui valorise certaines capacités de l'enfance, capacité d'émerveillement, capacité d'étonnement, capacité de renoncement à certaines
hiérarchies.
Au tout économique, enfin à certaines valeurs du monde contemporain qui
avoir le beau et le bon aussi dans tous les êtres.
Oui, donc évidemment, ça peut paraître tout à fait niais et naïf, mais il y a aussi une critique à travers la critique un peu naïve des grandes personnes, hein, parce que ce mot revient très très souvent dans le texte et
a
un côté un petit peu démodé. Voilà. Bon, les deux termes sont employés, mais c'est vrai que ce terme de grande personne a un côté un peu démodé dans le texte français. Ce qui explique d'ailleurs que le texte doit être mieux en traduction aujourd'hui, parce qu'en traduction on peut adapter le texte à la langue contemporaine, alors que nous on peut pas en français l'adapter à la langue contemporaine. Donc il y a des côtés démodés qui sont peut-être plus forts que dans des retraductions dans des langues étrangères. Donc mais cette critique du monde des grandes personnes, c'est aussi une critique assez acérée du capitalisme, du pragmatisme, du pouvoir absolu. Donc bon, voilà, ça sert à rien non plus de critiquer cela, je pense que...
Mais c'est pas tant ça que je critique, c'est pas le fait que ça s'adresse à une enfance fantasmée, c'est que c'est une vraie question sur cette valorisation de certains registres littéraires comme parce qu'il s'adresse à l'enfance. Il serait bon de ne pas les critiquer ou bon de les trouver bons parce qu'il valorise une certaine vision de l'enfance qui est peut-être en fait totalement mythifiée. À savoir que les enfants seraient forcément émerveillés, forcément étonnés, capables de voir le beau et le bon dans n'importe quel objet, alors que les adultes, pervertis par leur esprit de sérieux, tels les personnes qu'ils rencontrent, donc il y a le roi, le vaniteux, l'ivrogne, le businessman, la l'humeur de Réverbère et le géographe serait complètement aveuglé. Est-ce que c'est pas ce texte-là qui finalement fait une critique des grandes personnes, plus que moi qui fais une critique de l'enfance à travers ce texte ?
Oui, mais le personnage du Petit Prince, c'est pas un personnage complexe, sinon il serait pas devenu mythique. C'est un personnage qui a une certaine simplicité, mais qui n'est pas un personnage, je dirais seulement émerveillé, etc. C'est quand même un personnage extrêmement solitaire, hein, très mélancolique, en exil. Qui est sans parents. C'est un personnage qui a aussi quelque chose, qui dit aussi quelque chose de nos conditions contemporaines, d'arrachement à la terre. Je dirais qu'on a tendance peut-être dans certaines lectures, et un petit peu dans la vôtre, disons, à enfermer le Petit Prince dans une sorte de naïveté consciente, qui serait celle de l'enfance. Alors que ça n'est pas que ça. Hein.
C'est un personnage. Est-ce que c'est un enfant déjà?
Comme beaucoup d'enfants, c'est un personnage qui connaît la mélancolie, qui connaît l'ennui, qui connaît l'abandon ou qui a peur de l'abandon. Il me semble que quand même, il a la capacité à porter des expériences négatives de l'enfance et pas seulement des expériences positives. Et que c'est la force de ce personnage. Que d'une certaine manière, il dit aux enfants ou aux adultes qui se souviennent de leur enfance, parce qu'on se souvient pas que des bons moments de son enfance, il dit l'enfance, c'est aussi très dur. Moi, je le ressens comme ça.
Vous avez dit, Tiphaine Samoyo, que le Petit Prince n'était pas un personnage complexe, sinon il n'aurait pas pu être aussi universalisé, d'une certaine manière, on pourra revenir aussi sur ce terme. Est-ce qu'il est si simple que ça, en fait, le Petit Prince ? Parce que c'est tout le sens du récit. L'aviateur tombe sur le Petit Prince dans le désert, qui lui demande de lui dessiner un mouton, et à partir de là, le narrateur aviateur va tenter de retracer, de comprendre justement le Petit Prince. Le Petit Prince qu'on voit souvent comme un petit personnage enfantin, naïf, niais, si on est un peu méchant comme moi, néanmoins est beaucoup plus en fait complexe que ça. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre ce qu'il veut, d'où il vient, ce qu'il recherche, et ça, d'une certaine manière, la recherche échoue à répondre à ces questions-là.
Oui, alors effectivement, il faut rappeler comment se construit le récit, c'est-à-dire que tout est rapporté par la narration de l'aviateur. Donc, d'une certaine manière, c'est un personnage qui peut n'exister que dans l'imagination de cet aviateur, puisque à un moment, il raconte ce que le Petit Prince lui a dit, mais c'est quand même du discours rapporté. Mais on a tendance à l'oublier, et finalement, le personnage de l'aviateur, c'est un personnage qui accepte aussi de ne pas répondre aux questions qu'on pourrait éventuellement se poser. Donc à un moment, toutes ces questions, qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il cherche, finalement sont des questions qui ne comptent plus. on n'a pas besoin des réponses. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est aussi de
c'est
dire.
C'est presque plus intéressant que ce qui est dit.
Il y a un certain nombre de questions. Il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser dans l'existence. Alors c'est ça aussi qui fait de mon point de vue de ce texte un texte un peu religieux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui ne trouveront jamais véritablement de réponse, mais on peut s'acheminer d'une certaine manière vers la réponse, etc.
Mais c'est presque ça qui est plus intéressant dans ce texte que ce qui est dit véritablement, qui parfois est simple, va véhiculer un certain nombre de clichés. Peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas des clichés et que c'est la force de ce texte qui les a créés, mais c'est plus intéressant de voir en fait ce qu'on attend d'un texte face au Petit Prince et pourquoi on est déçu ou pourquoi ça marche. Or, c'est plus intéressant de se demander pourquoi on tient tant à savoir à chaque fois d'où viennent les personnages, ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, comment ils vont vivre et comment ils vont mourir.
Oui, c'est-à-dire que est-ce que c'est un personnage ? Je disais que c'était un personnage qui avait une forme de simplicité. Oui, il y a une forme de simplicité. Je disais que la force, c'est plutôt d'osciller entre deux pôles simples, hein, mm-hmm. qui sont positifs, négatifs, visibles, invisibles, tristes, joyeux, et de ne jamais choisir entre ces pôles. Et donc, ce qui crée une forme de complexité. Mais voilà, le personnage de l'aviateur est aussi assez important parce que lui-même commence son récit en disant que il a très longtemps dessiné un éléphant dans un boa, et que personne n'était capable de comprendre son dessin. Et finalement, dessine-moi un mouton, ça aboutit exactement à la même chose, c'est qu'il finit par dessiner le mouton dans une boîte. Donc on a le rapport entre contenant et contenu, avec qu'est-ce qu'il y a dans un contenant. Il y a un contenu, mais ce contenu, on ne sait pas tellement quel il est. Donc à l'orée du livre, c'est assez symbolique aussi, c'est-à-dire que c'est l'idée, on va produire un récit à l'intérieur, chacun va pouvoir y mettre sa réalité, sa représentation. Alors une chose étrange pour moi, parce qu'on peut considérer qu'une part du succès du texte vient du dessin, parce que le dessin a été extrêmement popularisé, il a été repris, décliné en quantité de produits dérivés, en quantité de films, de mise en scène, etc. Alors que précisément, le texte nous dit que le dessin n'a pas d'importance, hein, que l'important c'est le contenant et qu'à l'intérieur, on peut mettre la représentation qu'on veut. Parce que ce petit prince s'est aussi popularisé avec ses petits cheveux hirsutes.
Son petit papillon rouge,
son manteau bleu, qui moi je trouve est plus démodé d'une certaine manière que le texte, mais qui a contribué à son succès, sans doute aussi par la simplicité du dessin. Mais d'ailleurs, c'est le dessin qui a produit le texte, hein, d'une certaine manière, parce qu'il faut savoir que Saint-Exupéry, il avait déjà imposé dans son écriture cette figure du Petit Prince qu'on retrouve dans des lettres ou dans des manuscrits dès les années 30. Et c'est par la connaissance de ces dessins un petit peu enfantins que l'éditeur américain de Pilote de guerre a suggéré à Saint-Exupéry d'écrire un conte de Noël à partir de ses dessins.
Et voici précisément que cette œuvre qui avait paru dans toutes les langues de la Terre, dans toutes les langues vivantes, dirais-je, vient de paraître traduite dans une langue que certains disent morte, mais qui peut-être n'est pas tout à fait morte pour vous, au moins écoliers et lycéens, en latin. Oui, c'est-à-dire Régulus vel pueris solis sapiens.
Et que fais-tu de ces étoiles ?
Ce que j'en fais, je les gère, je les compte et je les recompte, c'est difficile.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter.
Hé, je te gênerai au kaité. Je te gênerai au kaité.
Eh bah, kake nain da.
Donna koto kamaya shinai yo. Je te gênerai au kaité.
Le petit prince est loin et toi, petite fille, tu aurais tant aimé qu'il reste. Tu l'aimais bien, je sais, pareil à sa rose. Ton amour fut si éphémère. Tu voulais l'apprivoiser, mais le prince est sauvage. Il s'est enfui, envolé, en quête d'autre rivage. Tu regardes le ciel, mais que cherches-tu? Astéroïde B612. 500 millions d'étoiles, c'en est trop pour toi. Fais attention au baobab. Nul s'est préoccupé, nettoyant ses volcans. Tu veux le rejoindre, l'aider, mais tu ne sais comment.
Osez le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
Alors voilà, Tiphaine Samoyo a un ensemble d'adaptations, de reprises du Petit Prince. On a entendu Le Petit Prince qui allait être traduit en latin, c'était en 1962. Le Petit Prince version opéra par Michael Levinas. Le Petit Prince en japonais, Dessine-moi un mouton. Et là, Nathan Ekberg, toi et le Petit Prince, comment expliquez-vous non pas ces multiples adaptations, mais plutôt ce côté universel de l'œuvre? Faut-il d'ailleurs parler de dimension universelle du Petit Prince?
Alors déjà, je réagis à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que certaines des adaptations démodent véritablement beaucoup...
Par exemple celle-ci?
Par exemple celle qu'on vient d'entendre, démodent beaucoup l'œuvre et le texte et sont vraiment ancrées dans leur époque. Hein. C'est le problème justement des textes très connus ou des mythes tout le temps actualisés, et les actualisations elles-mêmes se démodent, les traductions se démodent. Et donc là, on vient d'en avoir un exemple assez criant. Alors...
C'est pour Nathan Ekberg, du coup. Bah, voilà.
Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, à la fois, donc, c'est un texte qui fonctionne dans toutes les langues du monde et dans toutes les régions du monde. Donc,
tous les registres, d'une certaine manière.
Et effectivement, sur des pôles de production, de grande diffusion, hein, de masse, on va dire. Et puis aussi, au niveau, voilà, de création, plus élitiste, ou plus réservée, disons, à un certain public, comme l'opéra de Michael Levinas. Donc ça, c'est assez étonnant, parce que quelquefois, des œuvres qui tombent dans le domaine du populaire ne sont plus jamais récupérées, ou très rarement récupérées par la culture, disons, savante.
Et ce qui est intéressant avec Le Petit Prince, c'est que c'est un texte, quand même, on l'a dit, qui est normalement lu, traduit, retravaillé, et pourtant, vous le voyez plutôt comme un texte populaire, alors qu'un texte qui est mondialement lu, finalement, ou un mythe, par exemple, n'est ni l'apanage des élites, ni d'une réception populaire.
Non, mais quand je dis populaire, c'est justement que c'est totalement généralisé. C'est populaire au sens où c'est un public qui est devenu indénombrable.
Oui.
C'est pas au sens de culture populaire, disons, qui stigmatiserait un certain type de culture. Mais souvent, quand ça appartient comme ça à ce domaine public absolu et généralisé sur l'ensemble de la planète, voilà, c'est intéressant que ça soit aussi, mais c'est normal aussi. Hein, c'est comme les mythes, ça peut faire l'objet d'adaptations de tous les registres. Hein, c'est là aussi ça concourt finalement à la conception du Petit Prince comme mythe. C'est le fait que ça existe en effet dans toutes les cultures, même si c'est pas un texte qui est forcément très lu à l'université ou très travaillé par les universitaires.
Ça, c'est intéressant. Parce que est-ce que, d'une certaine manière, on peut avoir une attitude assez snob, à l'égard du Petit Prince, parce que, tomber dans la généralisation, dans la généralité?
Oui, ça peut jouer, mais enfin, vous voyez justement une adaptation comme celle de Michael Levinas, c'est repris par une culture qui est, enfin, c'est pas vu par des classes entières d'enfants, hein. C'est écouté par un public beaucoup plus restreint.
On peut se demander d'ailleurs ce que recherche ce public restreint en allant voir un opéra du Petit Prince.
Oui, alors je pense que quand ils y vont, ils vont plutôt écouter Michael Levinas, hein, qui s'empare de ce mythe et qui en fait quelque chose qui ressemble davantage à du Michael Levinas que sans doute à du Saint-Exupéry ou à l'idée qu'on fait de ce de ce texte. Même s'il y a une chose intéressante dans son dans son interprétation, c'est la prise en compte justement des différentes langues dans laquelle existe, qui crée une sorte de son un petit peu généralisé avec toutes les langues du monde. Enfin, il y a quelque chose de beau aussi dans l'idée que ce texte existe dans toutes les langues du monde. Je le disais en commençant, c'est un texte dont la traduction a aussi pour but d'inscrire des langues orales ou des dialectes seulement oraux et dont les locuteurs sont en voie de disparition. C'est un texte qui est devenu un petit peu paradigmatique du sauvetage de certaines langues en voie de disparition. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à signaler. Pour ce qui est du travail universitaire, bon, il y a évidemment un certain nombre de spécialistes de littérature enfantine qui vont prendre en compte Le Petit Prince dans des corpus beaucoup plus larges. Je dirais que souvent, les spécialistes, par exemple, de littérature française à l'université, ils vont être plus spécialistes d'un auteur que d'une seule œuvre. Mmh. Et que Saint-Exupéry, en dehors de Petit Prince, est un écrivain qui s'est démodé. Il faut bien reconnaître.
Pourquoi il s'est démodé, d'ailleurs ?
Alors, il s'est démodé parce que il a connu son succès d'un certain héroïsme et un certain humanisme qui se sont démodés. C'est-à-dire que son succès très important qu'il a commencé à connaître avec Vol de nuit au milieu des années 30 et qui s'est poursuivi ensuite avec Pilote de guerre et puis même ses œuvres posthumes. C'était vraiment lié à un contexte historique très particulier, celui de l'aventure de l'aviation, des débuts de l'aviation, de l'aéropostale, etc. C'était celui aussi d'un héroïsme assez viriliste qui, dans les années 30, venait de la Première Guerre mondiale et conduisait vers la Seconde. Et puis d'un humanisme qui est celui d'énormément d'écrivains des années 30, européens des années 30, qui plutôt pacifiste, qui essaye à tout prix, par la littérature, d'éviter la catastrophe qui s'annonce.
De faire le bien.
De penser le bien, mais pas un bien historiquement situé, dans le sentiment aussi d'un monde qui est en train de finir et d'une catastrophe annoncée. Donc, c'est pas le bien en général. Hein. C'est,
ouais.
c'est aussi dans un contexte historique très précis. Ce sont des textes qui portent ces valeurs-là, qui se sont beaucoup évidemment et qui ont été beaucoup écornés par la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est-à-dire que l'humanisme, on en avait soupé quand même. C'est-à-dire qu'on avait, on a bien conçu qu'il n'avait rien permis d'éviter du tout. Et ce qui explique, Puis après, c'est des valeurs qui ne sont plus les nôtres. La manière dont les femmes sont présentées, c'est un univers très très masculin. Je disais viriliste tout à l'heure, mais c'est un peu le cas. Et puis même l'aviation. Cette aventure-là, elle s'est en partie terminée. C'est-à-dire que c'est aussi un mythe du XXe siècle.
Et Le Petit Prince échappe à ça, où finalement, seules ces adaptations peuvent se démoder, mais Le Petit Prince est un mythe parce que mythe et donc va résister. Et même dans cette idée de faire le bien, et là ça dépasse l'idée d'un bien contextuel, perdure justement parce qu'il est porteur d'une morale qui est moins ancrée, moins politique que les autres textes de Saint-Exupéry.
Je pense que le contexte historique de production du livre est important et il n'y aurait pas eu ce succès s'il n'avait pas été écrit et publié à ce moment-là. Encore une fois, moi j'insiste sur le fait que la morale du Petit Prince, elle peut paraître tout à fait naïve et tournée vers le bien exclusivement si on ne retient que quelques épisodes du livre, et en particulier les plus célèbres, c'est-à-dire
le mouton, le renard
et la rose. Et donc là, avec des phrases qui sont devenues des clichés, comme On ne voit bien qu'avec le cœur, le reste est invisible pour les yeux. Mais je rappelle le mot de Baudelaire, créer un poncif, c'est le génie. Et d'une certaine manière, c'est Saint-Exupéry qui a créé ce poncif. Alors, il renvoie certes à une morale qui pourrait apparaître comme universelle, je mets des guillemets à ce terme, mais c'est quand même lui qui a écrit cette phrase. Hein. De même, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton, c'est une phrase qui aujourd'hui apparaît comme un poncif totalement éculé, mais qui a été produit pour la première fois dans ce texte-là. Donc, évidemment, on peut simplifier le Petit Prince en disant qu'il est tout à fait du côté du bien, mais si, à mon avis, il est aussi devenu mythique, c'est que sa simplicité ne se ramène pas simplement à la question du bien. Je dis pas que ça veut dire que s'il n'est pas moral, bien sûr que oui, il est porteur d'une morale, d'une sagesse. Et c'est ça, c'est comme tous les mythes, il est porteur d'une sagesse. Hein, c'est ce qui, encore une fois, le renvoie du côté de la religion. Mais ça n'est pas une morale uniquement positive. C'est une morale qui prend aussi en compte la difficulté d'être vivant, la solitude, l'exil, des choses très... Enfin, c'est la force du texte, toutes les choses qui nous poignent, qui nous émeuvent et qui finalement
mais ça reste
nous
une
rendent
morale...
enfants aussi. Tout ce qui nous fragilise et nous vulnérabilise à l'âge adulte, c'est des moments où on se sent... Ou se sent redevenir enfant, précisément à cause de cette vulnérabilité. Et je trouve que c'est un grand texte sur la vulnérabilité.
Mais cette morale reste aussi forte parce que, à un moment donné, elle se détache du contexte de production. Si aujourd'hui ça a autant de succès, c'est justement parce que la dimension politique, sociale, économique de production du Petit Prince n'est plus là et il y a une force par elle-même. Est-ce que cette force-là, elle est due à ses poncifs qu'a créé Saint-Exupéry, ou justement au fait qu'il traite des termes universels comme la mort, oui. La beauté, l'amour, l'amitié.
Oui, je pense, oui. C'est un texte sur les liens et qui produit une sagesse, alors qui effectivement, dans son résumé, peut paraître assez naïve, hein, et d'une certaine manière, on a aussi envie de la critiquer. Mais c'est un texte, oui, sur ces grands thèmes-là, hein, que sont l'amitié, donc une politique qui serait fondée uniquement justement sur ces liens d'amitié, de fidélité, de responsabilité aussi, hein, la question de la responsabilité qui me paraît très importante dans le texte. Mais
est-ce que vous diriez un texte universel?
Moi, j'ai du mal avec ce terme d'une façon générale parce que je pense que c'est un terme qui a été approprié par une culture, hein, au détriment des autres, et donc que c'est toujours culturel. Donc, je dirais que c'est un texte mondial plutôt qu'universel. La manière dont il traverse manifestement les époques le rend peut-être un peu plus que mondial, si on lui donne une pérennité dans le temps, mais j'ai du mal avec ce terme d'universel, parce que je pense que selon les cultures, on ne lit pas tout à fait la même chose. C'est un texte qui a énormément de succès au Japon, qui est rapproché d'un certain nombre de grands textes du taoïsme, par exemple, en Chine, du confucianisme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je disais que c'était un texte bouddhique compatible. Il y a une rencontre entre cette sagesse-là et la sagesse de Lao Tzu, par exemple. Mais dans cette culture, par exemple, il y a un musée du Petit Prince au Japon. Il y a déjà eu plus de 20 traductions en japonais. Alors évidemment, à chaque fois, ils réactualisent le texte pour l'adapter à ce qu'ils vivent, aux rapports familiaux, aux rapports de société, de ces sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc je dirais que c'est un texte, je reviens sur une idée que j'ai développée tout à l'heure, enfin j'ai juste suggéré, mais j'aimerais bien la développer parce qu'elle peut paraître un peu paradoxale. Je pense que le moins bon endroit pour lire ce texte aujourd'hui, c'est en France, en français. Parce que effectivement, il est il porte cette langue forcément un peu vieillie, hein, qui est celle du français des années 40, même s'il est écrit depuis les États-Unis, malgré tout, il est écrit dans ce français-là. Alors que dans les traductions successives que le texte connaît en langues étrangères, eh bien, il est perpétuellement réapproprié. Et ce qui lui donne une durée de vie sans doute encore plus forte.
On va écouter un des grands moments, vous en avez parlé Tiffaine Samoyo, du Petit Prince. C'est l'inévitable, l'incontournable passage de l'amitié avec le renard, mais vu par les trois frères.
C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le Petit Prince. »« Qui es-tu ? » « Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. »« Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. »« Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. »« Qu'est-ce que signifie apprivoisé ?»« C'est une chose trop oubliée, dit le renard. »« Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ?»« Bien sûr, dit le renard. »« Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. »« Et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. » Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde.
Continue l'histoire.
Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or.
Encore.
Alors le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut... proche... Ah, dit le renard, je pleurerai. C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Mais bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. C'est les conneries, ça.
C'est les conneries.
Dis, renard, petit.
Les trois frères, très émus par la lecture du Petit Prince et donc de ce passage, vous l'avez dit tout à l'heure, Tiffaine Samoyo, devenu cliché du renard avec cette idée d'apprivoiser. Alors on a beaucoup parlé, enfin vous l'avez cité en tout cas Tiffaine Samoyo, cette phrase, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, ça fait partie du secret délivré par le renard. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette idée de s'apprivoiser et aussi sur la dimension, alors non pas forcément moralisatrice, mais du moins de morale que délivre ce texte et le point de vue duquel se place non seulement le narrateur, mais aussi peut-être Saint-Exupéry en délivrant de telles leçons.
Oui, ce qui me paraît peut-être... C'est sûr que je dirais que c'est peut-être plus une sagesse qu'une morale. En tout cas, c'est une morale qui s'affranchit d'un certain nombre de règlements moraux qui sont ceux de la vie en société ordinaire, qui sont plus hiérarchiques, qui impliquent respect, obéissance, restriction des libertés, etc. Là, ça n'est pas le cas. On a quelque chose qui est plus de l'ordre de la sagesse parce que qui est le travail du lien entre les êtres. Hein, c'est vraiment tout le texte insiste là-dessus et tous les moments moraux, je dirais, avec la rose, la responsabilité, avec l'apprivoisement avec le renard, etc. C'est des moments où voilà, la question du lien est absolument centrale. Donc c'est une morale qui débouche éventuellement sur une politique, même si c'est une politique à quelques-uns et non pas une politique du plus grand nombre. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça relève un peu du mythe. C'est-à-dire que c'est une sorte de sagesse où ces liens se situent à plusieurs niveaux. Il y a ce niveau ordinaire qui est celui de la vie en société et puis un niveau sans doute plus spirituel. Qu'est-ce qu'on fait de ces liens lorsque on n'est plus en présence, soit que la mort, soit l'exil, soit voilà. Et donc à chaque fois, ces liens sont travaillés à deux niveaux, le niveau de la présence et le niveau de l'absence, le niveau du visible, le niveau de l'invisible. C'est pour ça que on peut parler aussi de petite métaphysique ou de métaphysique restreinte. Et je trouve intéressant de rapprocher cela du métier et d'ailleurs du reste de l'œuvre de Saint-Exupéry qui porte porte sur l'aviation. Et que ce soit l'aviateur aussi qui raconte ce récit à un moment où il ne peut plus voler. Donc il est dans cette espèce d'état où il est contraint d'être au sol, alors qu'il est en permanence entre ciel et terre et dans une vision de la Terre depuis le point de vue du ciel, donc qui renvoie, parce que c'est quand même intéressant aussi de ramener ça à la biographie de Saint-Exupéry, donc sur deux aspects, sur la question de l'absence et de la présence, bon voilà, il y a l'inscription hein, de la perte de son petit frère lorsque celui-ci était enfant et qui marque de la question du deuil qui est très présente dans Le Petit Prince et du visible et de l'invisible, mais il y a aussi cette condition et ce métier d'aviateur dont Saint-Exupéry a fait véritablement une philosophie ou a fait son œuvre et ce point de vue intermédiaire, il me semble que c'est celui auquel se situe tout le temps Le Petit Prince. Il faut rappeler que ouais, il a traversé le monde entier, hein, Saint-Exupéry, avec les avions. Il a essayé de battre des records. Il a développé l'aéropostale en Patagonie. Donc, il a survolé la Terre entière, hein, en Asie, en Amérique du Sud, absolument partout. Et je crois qu'une part aussi de la force du Petit Prince ou de son succès tient à ce point de vue qui est un peu le point de vue de Sirius aussi, dans Micromégas de Voltaire, mais qui est un point de vue surélevé. Mais pas complètement
surplombant.
Voilà, pas complètement surplombant. Hein, point de vue de Sirius, c'est-à-dire un point de vue qui peut complètement circuler d'une planète à l'autre ou d'un lieu à l'autre, comme en avion. Et je crois que ce point de vue-là, c'est celui peut-être d'une métaphysique à une échelle acceptable, disons en tout cas repérable, qui serait pas la métaphysique pure, et qui explique aussi le succès. C'est une sorte de métaphysique à hauteur d'humain, on pourrait dire, hein, puisque c'est peut-être vu d'avion. Et quand on voit le succès, par exemple, dans les dernières années, d'un livre comme celui de Yann Arthus-Bertrand, La Terre vue du ciel, succès qui peut paraître incompréhensible à un certain nombre de personnes, dont moi, mais qui me semble tenir aussi à ce point de vue à une certaine hauteur, hein, qui permet d'embrasser ou de croire comprendre sans complètement s'absenter soit dans les dans les abstractions de la rationalité, soit dans celle de la religion.
Et on pourrait ajouter à ça les photos de Thomas Pesquet qui va encore plus loin que Yann Arthus-Bertrand. J'aimerais pour finir, Tiffaine Samoyo, qu'on écoute les dernières pages du Petit Prince et on pourra clore ainsi l'émission et revenir un petit peu sur la postérité de ce Petit Prince. Est-ce qu'il faut encore le lire ou pas ?
Tu auras des étoiles comme personne n'en a. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme tu riais toutes les étoiles. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois la fenêtre comme ça, pour le plaisir. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça, ce n'est pas la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai.
Lecture des dernières pages du Petit Prince par un enfant, comme vous l'avez entendu, dans une archive de 1946. Je dois avouer, Tiffaine Samoyo, qu'en lisant ces dernières pages, pour ma part, je n'étais pas atterrée, mais assez angoissée. Et vous l'avez très bien dit, ce n'était pas du tout un texte de consolation. Est-ce qu'il faut encore lire Le Petit Prince et alors pour en tirer quoi ?
Oui, je pense qu'on en a parlé. C'est un texte qui prend en charge des inquiétudes et qui ne leur donne pas de réponse absolument stable. Donc, il y a évidemment des choses qui se sont démodées dans Le Petit Prince parce que précisément sa notoriété et sa postérité a fait que certaines de ses phrases sont devenues des clichés et ont été usées. Mais néanmoins, évidemment, il ne faudrait pas lire que ça. Bon, ça me paraît pouvoir restituer et prendre en charge certaines de ces inquiétudes. inquiétude, et y compris adulte, à le relire, parce que moi j'ai fait la même expérience que vous, je l'ai relu récemment pour cette émission, et j'ai trouvé que il y avait une certaine des grands textes sur la vulnérabilité, finalement pour enfants il y en a pas tant que ça.
Souvent, c'est ce que j'allais vous poser comme question.
Forts, soit les gens sont faibles. Là il y a pas ce manichéisme et de voir la fragilité de cet humain dans le désert qui manque progressivement d'eau et de ce personnage qui n'est pas véritablement consolé de sa solitude à aucun moment de son périple, et bien je trouve que c'est finalement une morale qui reste non autoritaire et bienvenue.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres textes qui peuvent qui remplissent, vous l'avez dit, qui ne parlent pas en fait de vulnérabilité pour les enfants de cette manière-là, qui sont peut-être plus complexes et qui sont moins usés par les nombreuses lectures et reprises qui en font un texte bien pensant?
Moi, je trouve que des textes de Tommy Ungerer ou d'autres, prennent en charge ça, mais peut-être avec moins de simplicité, avec plus de complexité. Cette simplicité, elle est bienvenue aussi, elle permet un partage par-delà les langues. C'est quand même utile aussi d'avoir des références communes. Et donc si cette simplicité a pu faire qu'on ait traduit ce texte dans 500 langues, je trouve pas que ça soit une mauvaise chose.
Et puis finalement, en vous écoutant, Tiffaine Samoyo, je me dis, pourquoi est-ce que c'est si grave en fait de lire des textes qui sont devenus des clichés finalement? Est-ce qu'on s'attend à autre chose parfois que de lire des textes qui ont autant de succès? On peut faire son autocritique.
Vous avez raison. Un texte entièrement dépourvu de clichés ne rencontrera pas finalement beaucoup de lecteurs.
Et ni d'écho en nous.
Et peut-être pas. Après, il faut faire la part entre ce qui était cliché au départ et ce qu'il est devenu quand on parle de ce texte-là, parce qu'il y a beaucoup de ces clichés comme Dessine-moi un mouton, pour revenir au début de l'émission, qui est quand même un cliché qui a été inventé par lui et dès lors il possède une certaine valeur historique et aussi une certaine poésie.
Merci beaucoup, Tiffaine Samoyo. De vous, on peut lire Traduction et violence, c'est paru aux éditions du Seuil. Roland Barthes, biographie, aussi aux éditions du Seuil. Et enfin, L'intertextualité, mémoire de la littérature, aux éditions Armand Collin. Et évidemment, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez lire, relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Saint-Texte, comme disent certains, qui est disponible aux éditions Folio Gallimard. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, que je suis ravie de retrouver pour cette année 2023. Anaïs Cisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Laure Dallest, réalisation Louise André et Nicolas Berger, prise de son d'Alia. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.